Saint-Étienne. Il fera 17 degrés à Rennes ou à Amiens, 18 pour Dunkerque ou pour Paris, 20 degrés à Colmar ou à Aix-en-Provence et jusqu'à 26 degrés sur l'île de Beauté.
Nous sommes le 120e jour de l'année et Angoune fête aujourd'hui ses 50 ans. Lundi 29 avril, excellent début de journée avec RTL, il est 5h.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
Le journal avec Tom Lefebvre et à la une ce matin, ce mineur en garde à vue après la mort d'un adolescent à Châteauroux.
Le garçon de 15 ans a été poignardé à mort samedi au cours d'une rixe, on sera sur place. À suivre aussi, les Français qui commencent à s'intéresser aux élections européennes à un mois et demi du scrutin. Bientôt un nouveau carburant 100% renouvelable à base de maïs, de betterave et d'huile de colza. Et puis les supporters de deux clubs de foot qui ont le sourire ce matin, le PSG est champion de France. Et puis Brest qualifié en Coupe d'Europe pour la saison prochaine. La question du jour sur RTL.fr. Alors que la flamme olympique est en route vers la France, est-ce que les JO vous donnent le moral? Bon, ce matin, vous dites non à 82%.
Dans un quart d'heure, nouveau rendez-vous sur RTL. RTL événement ce matin sur le fléau des accidents du travail. Il y en a deux mortels chaque jour en France. Le gouvernement veut lancer une grande initiative. Rendez-vous 5h15.
RTL Matin.
Mais d'abord, donc, il s'appelait Mathis. Cet adolescent de 15 ans a été tué samedi à Châteauroux au cours d'une rixe. Il a été poignardé plusieurs fois au thorax et au dos. Ce matin, un Français d'origine afghane, déjà mêlé à une rixe la semaine dernière, est en garde à vue. Sur place, les habitants sont sous le choc. Christian Panvert.
Dans le quartier Saint-Denis, la maman de Mathis, soutenue par des proches, dépose un bouquet de roses blanches sur le lieu du crime. Sonia, une voisine, observe la police scientifique réaliser les derniers relevés. Elle était là au moment des faits.
J'ai entendu un monsieur crier. Je croyais que c'était une dispute. J'ai juste entendu, tu te rends compte, il a 15 ans comme toi. Qu'est-ce que vous avez fait ? Hier soir, j'ai mes sœurs qui sont passées me voir. Si tout allait bien, si psychologiquement j'allais bien. Hein.
Pascal est abasourdi par ce qui vient de se passer, mais pas surpris.
Depuis quelques années, il y a beaucoup de problèmes ici, contre le trafic de drogue, les incivilités. C'était un quartier très tranquille et maintenant, voilà, c'est fini. Je l'ai dit la semaine dernière, j'ai dit un jour ou l'autre, on aura un souci. C'est arrivé, quoi, c'est bien triste.
Pourquoi le jeune Français d'origine afghane a-t-il tué de 4 coups de couteau ce fils de restaurateur, apprenti de 15 ans également, guet-apens, lié à un rendez-vous via les réseaux, trafic, mauvaise rencontre, aucune hypothèse n'est écartée. Des témoignages mettent aussi en cause la mère du mineur, âgée de 37 ans. Elle a également été interpellée.
Merci Christian Panvert à Châteauroux donc pour RTL. Une autre affaire de violence chez les jeunes dont on vous avait parlé sur RTL, celle de Samara, cette collégienne tabassée à la sortie de son collège à Montpellier. Un mois après, l'enquête administrative est désormais terminée. Selon son avocat à RTL, l'adolescente ne va pas bien, elle n'arrive toujours pas à s'exprimer et elle n'est pas scolarisée. Une balle perdue dans leur salon frayeur à Marseille, dans la cité de la Valbarelle. Cette balle a traversé le domicile d'une mère et de ses jeunes enfants. Ils n'ont pas été blessés. Trois adolescents sont en garde à vue. Faciliter un changement de nom à l'état civil ou encore une réduction des peines, le gouvernement va créer un véritable statut de repenti. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, l'a annoncé hier. Selon lui, la législation aujourd'hui en vigueur n'est pas assez efficace.
On est à un mois et demi maintenant des élections européennes et tiens, les Français semblent commencer à s'y intéresser.
C'est l'enseignement de notre sondage BVA Excite pour RTL, William Galibert.
Oui, en même temps, c'est déjà presque la dernière ligne droite. Dans un mois et demi, on vote. Dans 6 semaines, à peine, on vote. Donc normal que les Français commencent à avoir tout ça bien en tête. Presque 8 sur 10 désormais peuvent même donner la date sans se tromper. Et c'est le 9 juin, bien sûr. Ces électeurs, ils nous disent aussi, c'est la réponse qui revient le plus, que ce sont les enjeux nationaux qui vont guider leur choix, pas les programmes européens. Et 40% des électeurs, 4 sur 10, veulent se servir de leur bulletin comme d'une sanction contre Emmanuel Macron et contre la politique du gouvernement. Pouvoir d'achat, santé, sécurité, ça ce sont les trois thématiques qui sont citées en premier lieu. Et un dernier point intéressant, ce sondage RTL a été réalisé après le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron, donc après son entrée en campagne, si on peut dire. Et pour l'instant, ça n'a aucun effet sur sa candidate Valérie Ayé, toujours largement distancée par le RN, 31% contre 17%.
Et je vous signale, merci William, que le tout premier débat qui va opposer les principales têtes de liste aux européennes, eh bien ce sera ce dimanche, le 5 mai, sur RTL et Paris Première. Rendez-vous donc dimanche à partir de midi. L'Assemblée nationale débat aujourd'hui de la feuille de route budgétaire du gouvernement pour le quinquennat, deux jours après les décisions des agences de notation de ne pas revoir la notation de la dette française. Les oppositions continuent d'agiter la menace d'une motion de censure. L'actualité à l'étranger. Le Hamas indique qu'il n'y a aucun problème majeur dans la proposition égyptienne de trêve avec Israël. Ces dernières heures, de nouvelles frappes ont touché Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Selon le New York Times, la Cour internationale de justice prépare des mandats d'arrêt contre des responsables du Hamas et d'Israël, notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahou.
RTL 5h05, c'est un nouveau carburant qui pourrait bientôt faire son apparition à la pompe, le super-éthanol E85, 100% renouvelable.
Et c'est une information RTL, le 85 qui est aujourd'hui le carburant le moins cher, hein, 90 centimes le litre en moyenne. Il est composé, on le sait, de biomasse en grande majorité. Eh bien, il pourrait l'être totalement dans cette nouvelle version que vous avez testée, Christophe Bourou.
Au volant, rien ne change. Même sensation, même consommation. Pourtant, dans le réservoir, il y a bien un nouveau carburant fabriqué à partir de l'E85 qui contient jusqu'à 85% d'éthanol issu de céréales ou de betteraves. Seulement là, on va plus loin, explique Nicolas Courstouglou, responsable carburant de Bioéthanol France.
Tout simplement, en fait, on enlève la partie d'essence classique fossile dans le E85 et on le remplace par 15% de carburant renouvelable. Ce carburant, il peut être à partir d'huile de cuisson usagée. À la fin, on a un E85 qui vient à 100% de la biomasse.
Avantage de ce super éthanol 100% renouvelable, ses faibles émissions.
Ça permet de réduire de 70% les émissions de CO2 par rapport à l'essence et de 90 à 98% les émissions d'oxyde d'azote et de particules en empreinte globale, c'est-à-dire y compris la production du carburant et sa consommation.
Avantages écologiques et économiques pour un prix qui devrait être attractif autour des 1 euro le litre.
Merci Christophe Bourou, spécialiste auto de RTL.
Le football et le PSG qui est ce matin champion de France.
Au terme de la 31e journée de Ligue 1, car le dauphin Monaco a été battu hier à Lyon 3-2. L'autre bonne nouvelle, elle est pour Brest, vainqueur à Rennes au terme d'un match vraiment spectaculaire. Il y a eu 5-4. Les Brestois sont 3e au classement et donc officiellement qualifiés pour la Coupe d'Europe la saison prochaine. Pardon, c'est la première fois de leur histoire. Pour le plus grand bonheur d'Éric Croix, l'entraîneur.
Beaucoup de joie, beaucoup d'émotion. Bon, on l'a vu avec notre public aussi qui s'est dépassé en nombre ici dans ce stade magnifique, avec cette ambiance, avec ce scénario de match. Que dire ? C'est notre équipe en ce moment. C'est une équipe qui veut produire, qui quelquefois se fait punir. Pouvoir revenir dans ce match-là à hauteur, puis après mener, subir cette égalisation et puis arracher le match et la victoire à la fin. Bon, c'est des scénarios qu'on peut pas imaginer, qu'on pourrait même pas écrire. Et c'est vrai que quelque part, je suis tellement fier de mes garçons parce qu'ils vont au bout d'eux-mêmes, ils vont au bout de leurs idées. Et voilà, félicitations à eux, parce que c'est vrai que ce sont eux les acteurs.
Voilà, propos recueillis par Philippe Audouin. Les autres résultats, Marseille a battu Lens 2-1, victoire aussi de Lille contre Metz 2-1 aussi, de Clermont sur Reims, il y a eu 4-1, de Nice face à Strasbourg 3-1 et de Toulouse contre Lorient 2-1. En foot féminin, l'Olympique Lyonnais s'est qualifié hier pour la finale de Ligue des Champions face au Barça, après avoir battu le PSG 2-1. Et puis Jérôme, Caroline, on termine avec cette information RTL de Stéphane Boutsock qui nous révèle ce matin la composition du jury du prochain festival de Cannes. On le savait déjà, la présidente, c'est la réalisatrice et actrice américaine Greta Gerwig de Barbie. Elle sera entourée notamment d'Omar Sy et de l'actrice française Eva Green.
Oui, ça vient d'être confirmé à l'instant d'ailleurs par une dépêche de l'AFP. Merci beaucoup Tom. Rendez-vous 5h20, on vous en parle ce matin.
Et elles sont très nombreuses à circuler sur les réseaux sociaux à propos des Jeux Olympiques. Je vous parlerai ce matin d'une campagne de fake news orchestrée par la Russie.
Ah, bonne histoire à retrouver à 5h20. Nous parlions avec Clément tout à l'heure qui veut s'installer comme boulanger en Bretagne avec sa compagne peut-être, mais il hésitait parce qu'il dit travailler ensemble c'est pas toujours facile quand on est en couple. Ben, on a un message de Jean-Michel sur le groupe Facebook de l'émission qui nous dit ça fait 40 ans que je travaille avec mon épouse et tout va bien, il est pâtissier boulanger.
Oui, c'est certain, ça peut être des vraies bonnes équipes, hein, des vrais beaux binômes. Il y a aussi plein de messages sur notre groupe Facebook. Ce matin vous êtes très en forme. Micheline nous embrasse de Barbie en Savoie avec un temps nuageux et 10 degrés. Il y a 17 degrés à Melbourne chez Michel. Michel, il est en train de rentrer de la pêche au saumon. Chaumont. On n'a pas tous les mêmes projets.
Ah non.
Il est en train, il nous envoie des photos de lui. Et belle prise, a priori, Michel, ce matin. Il y a Sandrine qui est à Moulins, qui est en direction du 93. Elle a 10 degrés et elle nous souhaite une très belle journée. Puis il y a Nathalie qui se réjouit chez elle à Sallanches, au pied du Mont Blanc. La pluie, c'est fini. Elle nous envoie des photos de fleurs de son jardin. Et nos auditeurs sont vraiment exceptionnels, Jérôme, parce qu'il y a Paola qui lui répond, elle aussi, en photo de fleurs, sur notre groupe Facebook RTL Petit Matin. Si vous voulez venir deviser en photo de fleurs, vous êtes les bienvenus.
À suivre dans vos petits matins, RTL événement dans 5 minutes, le fléau des accidents du travail. 2 accidents mortels chaque jour en France. Nous sommes le pire pays d'Europe en la matière. Le gouvernement lance des consultations ce lundi. Reportage et témoignages dans un instant. Au programme également, vos rendez-vous santé et conso à 6h moins quart. Préférez les escaliers aux ascenseurs et vous vivrez plus longtemps. C'est ce que nous dira Aline Perraudin et Olivier Dauvert. Lui nous expliquera pourquoi les asperges sont si chères en ce moment. Vos rendez-vous santé et conso, c'est du lundi au jeudi sur RTL.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
On jette un coup d'œil à vos journaux à cette heure-ci, désormais sur RTL. Inquiétude autour de la grippe aviaire. C'est la une de la Dépêche du Midi ce matin, le scénario catastrophe. L'OMS a exprimé sa vive inquiétude sur une mutation du virus qui le rendrait transmissible entre hommes. Les scientifiques français se veulent rassurants, tout comme les éleveurs de volailles, écrit le journal. Dossier spécial à lire ce matin dans la Dépêche du Midi. Coup de froid sur les vacances, ça c'est le titre à la une de la Voix du Nord, décidément. Hein, on en parle avec Tom qui était en Corse la semaine dernière. Bah, tout le monde est logé à la même enseigne. Météo Mossad et ce n'est pas fini. Sur la côte, les touristes sont là, mais le printemps, pas vraiment. Ça, c'est la Voix du Nord. Et puis, dans les pages Paris, du Parisien, l'optimisme de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, à 3 mois des JO, et en lien avec notre question du jour d'ailleurs, est-ce que ces Jeux vous donnent le moral? Pour Valérie Pécresse, la région est prête comme jamais pour les JO. Sur les transports, les pièces du puzzle sont en train de s'emboîter, explique-t-elle. Les prolongements des différentes lignes, nous sommes dans les temps. Les manques d'effectifs, la SNCF et la RATP nous ont dit que les recrutements ont été effectués, répond Valérie Pécresse. Cet été sera un vrai tournant dans la révolution des transports, jure la présidente de la région. Et il y aura aussi cette première mondiale, 1000 taxis roulant à l'hydrogène et qui permettront de rejoindre les différents sites de la compétition. La France en pointe. Et si on se réjouissait un peu ce matin, non ?
RTL, le podcast du jour.
Et je vous conseille ce matin Symptômes, où un médecin raconte un cas qui a marqué sa carrière. Il s'appelle Laurent Carilla, il est psychiatre spécialisé en addictologie à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Un jour, il reçoit un homme accro à la cocaïne. Le diagnostic est donc assez rapide, le patient motivé, mais une découverte va venir bouleverser le cours des événements.
À la fin de la première consultation, moi j'ai quelque chose de très stéréotypé, c'est-à-dire je fais le diagnostic de la maladie addictive et je vois s'il n'y a pas d'autres addictions. Je fais aussi des diagnostics, enfin j'essaie de repérer s'il n'y a pas des pathologies psychiatriques évidentes. Et à la fin, je prescris une batterie d'examens complémentaires parce que la cocaïne attaque à peu près tous les organes, donc le cœur, le cerveau, le foie, puisqu'il y a de l'alcool, il y a une prise de sang, il y a plein d'autres éléments à prescrire. Et je donne un petit exercice qui s'appelle la balance décisionnelle. La balance décisionnelle, c'est quels sont les avantages et les inconvénients du fait que j'arrête ma consommation. Et un mois après, il est revenu et il avait une motivation, on va dire, entre 0 et 10. Il était à 7,77 par exemple.
Pour retrouver ce podcast, vous allez sur rtl.fr, où vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone, vous cliquez sur la petite loupe et dans la barre de recherche, vous tapez « Symptômes ». Les accidents du travail, spécialité française, on se pose la question ce matin. En tout cas, nous sommes les plus mauvais élèves d'Europe. 2 accidents mortels chaque jour en France liés au travail. Reportage et témoignage dans RTL événement, juste après ça.
RTL pour décrypter l'info. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
C'est bien beau de vouloir mettre les enfants en pension. Et qui va payer tout ça? Parce que en temps normal, l'école est gratuite, mais là, c'est pas gratuit, là.
La façon d'éduquer les enfants, moi, je trouve que c'est plutôt l'État qui a les responsabilités et non pas de dire les parents ne font rien.
Vous aussi, vous souhaitez partager votre point de vue sur un sujet d'actualité? Vous êtes au bon endroit. Tous les jours à 13h, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Tout savoir sur les taches brunes avec les laboratoires Vichy. Dans un instant, nous verrons comment apparaissent les taches brunes sur le visage, comment les corriger et les prévenir.
RTL Matin, Jérôme Florin.
Merci de vous réveiller avec RTL. Dans le journal de 5h30, on va revenir sur ce match historique à plus d'un titre. Hier soir en Ligue 1, le club de Brest a décroché une place européenne pour la saison prochaine. C'est la première fois de son histoire. Brest, qui est le 15e budget de Ligue 1, est ce matin 3e du championnat. Les Brestois ont remporté un match spectaculaire. Victoire 5-4 contre Rennes. Le dernier but de Brest marqué dans les dernières secondes avec le temps additionnel. Écoutez le milieu de terrain brestois, Pierre Lemelou.
Quand c'est validé, c'est une explosion. Je pense qu'on nous voit tous, on est tous de notre côté à hurler. Non, franchement, c'était fou. Et là, ouais, maintenant, on peut chanter. C'est pour ça que ça fait plaisir. Ça adresse toi, Coupe d'Europe.
On y revient dans le journal de 5h30.
RTL événement.
RTL événement ce matin sur la prévention des accidents du travail. Les chiffres sont impressionnants. En France, 2 accidents mortels surviennent chaque jour au travail. Nous sommes les plus mauvais élèves d'Europe. En 2022, plus de 500 000 personnes ont eu un accident sur leur lieu de travail. Et face à ce constat, le gouvernement veut lancer une grande initiative. La ministre Catherine Vautrin réunit aujourd'hui les organismes de prévention avant des annonces du Premier ministre dans les prochaines semaines. Bonjour Mathilde Piquet.
Bonjour.
Alors derrière ces accidents, il y a aussi des vies, des familles. Et vous avez rencontré une femme qui a perdu son mari dans un accident du travail.
Le 3 avril 2020, c'est le jour qui a fait basculer la vie de Johanna. Son mari Alexandre travaille alors dans une laverie industrielle en Île-de-France en tant que technicien de maintenance.
La gendarmerie frappe à la porte pour m'informer qu'Alexandre avait eu un accident et que malheureusement les secours n'avaient pas réussi à le réanimer. Et j'en sais pas plus. J'ai eu cette sensation de mon corps qui se brûlait de l'intérieur. On avait 2 enfants, mon fils 4 ans à l'époque et ma fille 4 mois. De quoi il est mort, papa? Comment vous voulez qu'eux ils se construisent? Je découvrirai par la suite qu'en fait il est tombé dans un sèche-linge et que le sèche-linge s'est remis en route. J'ai eu cet instinct de continuer à faire vivre Alexandre à travers moi.
Il y a ses guitares sur le mur, très visible. Les enfants, dès qu'ils descendent, dri, oh, papa.
Johanna en est persuadée, cet accident aurait pu être évité avec davantage de prévention.
La sécurité, la prévention, elle n'existe absolument pas. Mon mari Alexandre m'a toujours dit, mais tu te rends pas compte, je peux tomber, je peux me faire mal. Dans ma tête, je me dis, mais quel pataquès qu'il me fait. Et je pense que la plupart des Français n'ont absolument pas conscience du risque qu'on prend au travail. La plupart des accidents mortels au travail, ils peuvent être évités juste par la prévention.
L'entreprise d'Alexandre n'a pas été condamnée. L'enquête de la police judiciaire a été classée sans suite. Encore aujourd'hui, la responsabilité pénale n'est pas établie. Impossible de savoir si c'est Alexandre qui a oublié d'enclencher le mécanisme de sécurité ou s'il y a eu manquement de l'entreprise. L'inspection du travail a néanmoins rouvert une enquête. Le procureur de Melun doit donner ses conclusions dans les prochaines semaines.
Éviter ces accidents avec de la prévention, c'est ce que réclament les familles et les victimes. Mais Mathilde, est-ce que les entreprises y arrivent ?
Pas vraiment. Exemple, dans le bâtiment où a lieu la moitié des accidents mortels. Christophe Bougain est à la tête d'une entreprise familiale dans les Yvelines. Il sensibilise ses salariés avec des réunions régulières. Mais le mois dernier, le patron a dû stopper un chantier avec 2 de ses salariés, faute d'équipement.
Ils s'aperçoivent une fois qu'ils sont arrivés sur le chantier qu'ils n'ont pas les harnais. Ils ont juste 5 étages en dessous d'eux. Ils ne se posent pas la question. Ça m'a réveillé la nuit d'après. Je vois le drame, je vois le mec par terre. Moi, j'ai une vingtaine de salariés. Je peux vous dire que je tremble 20 fois.
Et une fois sur le terrain, les employés reconnaissent prendre quelques libertés. Clémence, une chargée d'affaires.
Gants, chaussures de sécurité, lunettes, casque. C'est clairement trop lourd. Ça nous arrive des fois de se dire, je vais enlever mes lunettes parce que ça me gêne, j'ai de la buée. C'est pile à ce moment-là qu'on va se prendre un truc dans l'œil.
Des gestes de prévention essentiels, surtout auprès des jeunes. Les moins de 25 ans formés au risque professionnel ont 2 fois moins d'accidents du travail.
Et comment faire justement, Mathilde, pour rendre cette prévention plus efficace?
D'abord en y accordant plus de moyens, c'est ce que réclame la CGT, Benoît Martin, membre de la Confédération Nationale.
Il faudrait mettre vraiment des moyens importants dans la prévention. Le nombre d'inspecteurs du travail diminue. Ça devient un débat beaucoup plus présent dans l'espace public et on ne voit pas moins d'accidents du travail. Il y a là une vraie contradiction.
Le secteur privé aussi se mobilise. Par exemple, le vendeur de matériaux Point P lance aujourd'hui une campagne de prévention à destination des artisans. Et puis des start-up utilisent l'intelligence artificielle pour repérer les situations dangereuses dans les usines notamment.
RTL événement signé ce matin, Mathilde Piquet. RTL événement, c'est votre nouveau rendez-vous d'info de la rédaction tous les matins à 5h15 sur RTL.
Venez partager votre avis au 3210. 50 centimes la minute.
Et comme chaque jour, vous venez commenter l'actualité au 32-10 avec notre question du jour ce matin. La flamme olympique en route vers la France, est-ce que les Jeux vous donnent le moral? Eh bien, on a bien fait de vous poser la question parce que vous dites non à 82% et vous dites oui à 10%. Vous votez sur RTL.fr et l'appli RTL. Et dans les 10%...
Eh bien, on a trouvé Franck qui est heureux.
On a trouvé un.
Très plaisir, Franck du Sud. Alors, vous êtes très content de voir arriver les JO?
Bah exactement, moi c'est bizarre, mais à chaque fois que je vote pour l'enquête de RTL, moi je suis toujours dans le 10% des personnes qui ne font pas partie de la majorité, c'est incroyable.
Vous êtes la glorieuse minorité, c'est tout à votre honneur. Alors pourquoi cet optimisme débridé, Franck?
Bah je pense, alors moi j'ai envie de dire, c'est peut-être grâce, parce que j'habite les Alpes-Maritimes, c'est possible, parce que moi je me suis mis depuis le 16 avril dernier, on était à 100 jours des JO, j'ai mis un drapeau olympique et je vous assure, ça fait parler dans mon immeuble, ça a même fait parler dans le quartier, parce que mais pourquoi il y a un drapeau, c'est quoi ce drapeau? Donc moi je trouve ça déjà super. Ensuite, moi j'ai mes collègues du laboratoire de Menton qui se situe en face de la gare, ils sont déjà en préparation, ça se dit comme ça. Ils ont mis une guirlande avec tous les drapeaux des pays qui vont être là au JO. Ils sont en train de confectionner, de réfléchir à une tenue. Donc ils vont mettre une tenue, pas une blouse blanche, parce qu'on se dit allez, pendant un mois il va y avoir les JO. Donc moi je pense qu'à mon avis il y a un microclimat, il y a un virus qui se pose ici dans les Alpes-Maritimes.
C'est juste dans les Alpes-Maritimes.
Et puis moi j'ai un super souvenir des JO de 92 à Albertville. Les JO c'est quand même une à deux fois dans une vie. Et moi, quand je repense aux JO d'Albertville, Tom, il se souviendra pas, c'est sûr, mais il y avait quand même Soria Bonali qui a quand même gagné des médailles. On avait le couple Isabelle et Paul Duchesnet à l'époque, ou Philippe Candeloro.
Non, mais a posteriori, il y a des bons souvenirs. C'est avant, il y a peut-être une crainte. Et je pense que là, il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur, notamment des Parisiens qui ont décidé de fuir la capitale. Autour de vous, il y a des pessimistes ou pas?
Franchement, moi, j'en entends pas parler.
Ah bon?
Non, moi, je pense que ça va monter crescendo. Mmh. Voilà, encore une fois, c'est parce que ce sont les Alpes-Maritimes, parce que je vais voir bientôt passer le voilier avec la flamme olympique.
Le Bélème,
à Marseille, voilà. Mais enfin, j'arrive pas à comprendre. Alors, ça va peut-être monter crescendo, comme lors d'une Coupe du Monde. Puis nous, ici à Nice, on va aussi avoir l'arrivée du Tour de France, parce que justement, comme il y aura les JO à Paris. Et ben nous on va avoir ça sur la promenade des Anglais.
Exceptionnellement.
Donc, voilà. Il y a un microclimat chez nous.
Bon, il y a beaucoup de messages qui ne vont pas dans votre sens, hein, Franck. Hein.
On vous a posé la question sur le groupe Facebook. Est-ce que les JO vous donnent le moral? Bon, franchement, les auditeurs sont pas vraiment à fond ce matin, pas du tout. Beaucoup s'inquiètent, notamment du coût des Jeux et de la situation économique de la France. Pour Christiane, pour Carole, c'est de l'argent gaspillé. Christine nous écrit par ailleurs: comment voulez-vous qu'un événement soit festif quand on nous dit, par exemple, de faire du télétravail? William, alors lui, il nous dit qu'il est pas du tout enjoué, mais il regarde. Gardera quand même la cérémonie d'ouverture depuis son salon. Mmh. Et puis, allez, quand même un message de quelqu'un qui fait partie des 10%, Nicolas. Il est l'un des seuls à nous écrire qu'il est très impatient que la flamme arrive en France. D'ailleurs, il fait partie de ceux qui auront la chance de la porter dans les prochaines semaines.
Et alors, Franck, quel sport vous allez suivre le plus lors de ces JO?
Là, j'avoue que je suis en train de me renseigner parce que j'ai cru comprendre que ici à Nice, on risque d'avoir des matchs de rugby voire de foot durant les compétitions. Donc, je me demande si je vais pas aller voir s'il y a encore des places au stade Riviera de Nice, parce que ça va se passer là-bas. Mais moi, après, je regrette tout. Moi, dès qu'il y a un Français qui va être en finale ou en demi-finale, voire en quart, c'est comme le foot. Moi, je vais être devant mon poste de télé et je vais essayer de suivre ça, quoi. Mais bon, sinon, je suis pas très sportif, je sais même pas nager, donc.
En tout cas, s'il n'en reste qu'un, ce sera vous, Franck.
Ouais,
on a bien compris.
Vous, l'optimiste. Voilà.
Merci beaucoup, Franck. Très bonne journée.
À bientôt. Bonne journée.
À très bientôt, cher Franck. Il est 5h22.
RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, dans RTL Matin.
Aujourd'hui, je vais vous parler du 29 avril 1945, où les électrices françaises ont enfin pu s'exprimer pour la première fois sous les ors de la République.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, avec Laurent Deutsch, tous les jours à 7h20.
À tout à l'heure.
Tout savoir sur la recherche et le développement avec Michelin. Michelin, ce n'est pas qu'une histoire de pneus, c'est aussi une tradition d'innovation sur Terre, en mer et même sur la Lune. C'est dans un instant.
RTL Matin, on vous en parle.
Tom, chaque matin vous scrutez la presse et les réseaux sociaux et vous nous dites, attention, et là c'est assez sérieux, attention aux fake news qui circulent à propos des Jeux Olympiques.
Et ces derniers jours, elles sont très très nombreuses à se propager sur les réseaux sociaux. Vous en avez peut-être vu, sans vous en rendre compte, des vidéos publiées sur Facebook, sur X comme on dit maintenant, sur Instagram, sur TikTok, qui ont tous les codes de vrais médias français. TF1, BFM TV, Le Figaro et j'en passe se sont fait piéger entre guillemets de fausses informations qui sont relayées donc sous la bannière de ces médias, des fausses informations avec un même point commun, donc les JO. Par exemple, un faux reportage du JT de 20h qui explique que les femmes françaises doivent accoucher avant les Jeux pour libérer des chambres d'hôpital.
Non mais quand même.
Voilà. Un autre sur des nuits d'hôtel annulées pendant la période des Jeux. Un autre encore sur les punaises de lit. Tiens, ça revient. Un faux reportage du Figaro où l'on apprend, soi-disant, qu'un produit anti-punaises de lit a fini dans la Seine. C'est devenu nocif pour toute la population qui est en danger. Mmh. Bon, vous l'avez compris, toutes ces infos, elles sont fausses. Mais on peut y croire puisque ça a tout d'un reportage de médias crédibles. Hein, pour vous dire, il y a des logos, il y a la même typographie. Y a, vraiment, on pourrait y croire. Et ça va même plus loin puisqu'on y voit des experts français, des gens que nous on connaît ici en France, dont la traduction de leurs paroles a été totalement modifiée pour faire d'autres phrases.
Ah oui,
qui
ce
vont
sont des fausses traductions.
De fausses traductions pour aller dans le sens de cette désinformation.
Mais Tom, ça vient d'où alors ces fake news ?
De Russie. D'abord sur des boucles Telegram russes, puis ensuite, et c'est inquiétant, dans de grands médias russes, c'est là que ça se propage en fait, des médias traditionnels russes, là où sont relayés ces fake news, ça passe à la télé donc, puis ça finit sur les réseaux sociaux, on l'a compris, ça se propage jusqu'à chez nous, et ça inquiète. En France, d'ailleurs, le Parisien rapporte qu'une note du Centre de renseignement olympique alerte sur ces opérations de désinformation. L'objectif de cette opération, on peut le comprendre, c'est de discréditer les Jeux Olympiques, et plus largement la France. Le ministère des Affaires étrangères assure qu'il y a une enquête aujourd'hui pour savoir d'où ça vient, si derrière ce sont des simples personnes russes qui veulent juste semer la pagaille ou si c'est plus orchestré, par exemple le Kremlin qui serait derrière cette déstabilisation. En tout cas, de chez nous, on ne peut rien faire. Si ces vidéos elles se propagent sur les réseaux sociaux, on ne peut pas les interdire. Je précise quand même qu'il faut être vigilant. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe dans ces vidéos. Ça peut nous mettre la puce à l'oreille. Derrière aussi, il y a de la musique techno souvent sur ces vidéos et on se dit c'est bizarre, la musique techno dans un reportage du 20h. Voilà, si vous avez le moindre doute, en tout cas, vérifiez d'où viennent ces vidéos. Si elles ne viennent pas du compte officiel du média que l'on connaît tous, c'est qu'il y a peut-être un problème.
Merci beaucoup, Tom Lefèvre. Étonnant.
RTL.
Un extrait de vos grosses têtes. C'est tous les jours, 15h30, 18h, quand vos grosses têtes sont en tournée.
En province, on dit toujours, vous allez jamais en province. Je dis, ça dépend de Bavois, ça dépend d'Angers. S'ils m'invitent pas, j'y vais pas.
C'est-à-dire que vous avez...
Comme si j'étais contre Lyon.
Et c'est ça, les dates de tournée. Vous affichez les dates de tournée d'un artiste. Alors, croyez-moi, j'en sais quelque chose, parce qu'il y en a quelques-uns qui tournent en ce moment. À chaque fois, il y a quelqu'un qui vous envoie un message. Ah, mais pourquoi vous venez pas à Toulouse? Vous n'aimez pas Toulouse? Mais on n'y est pour rien. Si Toulouse nous demande de venir, on vient. Mais il faut qu'il y ait une demande. C'est pas nous qui décidons de là où on passe.
Mais oui.
Il a raison, Obalk.
Et des fois, il y a un autre phénomène. On passe à Toulouse et une semaine après, on dit « Mais pourquoi vous venez pas à Toulouse ?»
Vous avez raison, plus c'est vrai.
Vos grosses têtes et retrouvez vos grosses têtes à partir de 15h30 aujourd'hui pour une émission spéciale depuis Montluçon, émission enregistrée vendredi en partenariat avec le quotidien La Montagne. Oh Caroline, un joli rideau de pluie déferle sur le pays aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, ce matin, c'est juste l'ouest et le nord qui se lèvent sous de belles éclaircies. En revanche, la journée sera pluvieuse du sud de l'Aquitaine et l'Occitanie jusqu'à la Bourgogne. De part et d'autre de cet axe, c'est la grisaille qui va dominer. On attend même quelques ondées plus faibles là, du Limousin et du Berry jusqu'à la Champagne-Ardenne et des Alpes du Nord jusqu'aux frontières allemandes. Dans le quart nord-ouest, la journée sera donc plus ensoleillée. En revanche, dès la fin d'après-midi, une nouvelle perturbation pluvieuse va faire son entrée par la pointe bretonne. Côté température, vous allez le constater, elle se réchauffe. Pas de gelée ce matin, on attend 7 degrés pour Rennes, 9 à Limoges ou à Cherbourg, 10 pour Lille ou pour Nantes, il fera 12 à Brest, à Paris, à Strasbourg ou à Lyon, 13 à Biarritz ou à Marseille et jusqu'à 19 degrés déjà à Nice ou à Bastia. Et cet après-midi, les températures vont alors baisser là où il pleut. Il fera plus que 14 degrés à Camaret-sur-Mer, à Tarbes ou à Saint-Étienne, mais il fera tout de même 17 degrés à Rennes ou à Amiens, ça se réchauffe dans le nord. Il fera 18 à Dunkerque ou à Paris, 20 à Colmar ou à Aix-en-Provence et jusqu'à 26 degrés en Corse. C'est
ah là là. Caroline, je vous prends un peu au dépourvu, mais on en sort quand de cet automne interminable?
Alors, j'ai envie de vous annoncer plein de bonnes nouvelles, mais franchement, pas avant la fin de la semaine.
Pas avant la fin de la semaine.
Non, désolé, ouais, beaucoup de pluie. Ah, en même temps, on l'a demandé la pluie, on l'a eu.
Ah oui, c'est sûr qu'on aurait peut-être dû demander un peu moins fort.
Voilà.
Voilà, parce que là, on est métro servi. À suivre dans vos petits matins, 6h15, l'invité sera le président du conseil départemental de l'Aisne, Nicolas Fricoteau. Son département est dans le rouge. Il a voté il y a quelques jours un budget en déséquilibre. C'est extrêmement rare pour une collectivité locale. L'Aisne risque de se retrouver sous la tutelle de l'État. Alors Nicolas Fricoteau appelle à l'aide. Comment en est-il arrivé là? Ça changerait quoi concrètement pour la vie des gens de se retrouver sous tutelle de l'État? On lui posera toutes ces questions à 6h15. Il sera notre invité. Nous sommes le lundi 29 avril. C'est l'anniversaire d'une légende de la country aujourd'hui, Willie Nelson, 91 ans. On the road again.
Ça me donne envie de partir des Santiago. Ça n'a rien à voir, mais voilà. Je partage avec vous.
Et d'aller chez Buffalo.
Oui, aussi, il me connaît.
On n'est pas dans les clichés du tout là, non, c'est ça qui est bien.
Pardon. Respect à M. Wilson.
On vous souhaite un très très bon début de journée avec RTL. Nous sommes le lundi 29 avril et il est 5h30.
Jérôme Florin,
RTL Matin.
Et nous accueillons Hortense Crépin pour le journal. Bonjour Hortense.
Bonjour Jérôme, bonjour Caroline, bonjour à tous.
Avec pour la première fois de son histoire, Brest qui disputera bien la Coupe d'Europe de football.
Une victoire pour le club breton, seulement 15e budget de Ligue 1. Le gouvernement veut lutter contre le trafic de drogue avec un statut plus protecteur pour les repentis. Alors qu'est-ce que ça va changer? Puis RTL a pu prendre des nouvelles de Samara, cette collégienne agressée au début du mois devant son collège.
Après ce journal, RTL autour du monde avec les migrants qui affluent vers l'Irlande. Depuis l'accord britannique pour expulser les clandestins vers le Rwanda et les relations qui se tendent entre Dublin et Londres.
RTL Matin.
La nuit a été courte pour les Brestois. 3 journées de la fin du championnat de Ligue 1 de football. Le club s'est assuré hier soir de jouer en Coupe d'Europe la saison prochaine. Une première dans son histoire. Qualification arrachée après une incroyable victoire contre Rennes 5-4 à laquelle vous avez assisté, Philippe Audouin.
L'euphorie de fin de match aura été à la hauteur d'un scénario complètement fou et renversant, bien à l'image finalement d'une équipe épatante. Brest a été mené 2-0 avant de prendre l'avantage 4-2 et se faire remonter 4 partout pour finalement s'imposer dans la 6e minute du temps additionnel, 5-4. La liesse sur le terrain partagée ensuite avec les 1300 supporters brestois qui avaient fait le déplacement. Ce moment-là restera dans l'esprit du milieu de terrain Pierre Lesmelou.
Quand c'est validé, c'est une explosion. Je pense qu'on nous voit tous, on est tous de notre côté à hurler. Non, franchement, c'était fou et c'est pour ça que là, on s'est lâché. Et en plus, on leur doit tellement, ils ne sont jamais lâchés. Donc là, ouais, maintenant, on peut chanter. C'est pour ça que ça fait plaisir. Stade Brestois, Coupe d'Europe.
Et oui, le Stade Brestois jouera la Coupe d'Europe la saison prochaine pour la première fois de son histoire. Peut-être même la Ligue des Champions. Destin incroyable pour le 15e budget seulement de Ligue 1.
Philippe Audouin pour RTL, Brest en Coupe d'Europe et Paris assuré d'être champion de France pour la 12e fois de son histoire. Le PSG a profité de la défaite de Monaco hier à Lyon, 3-2 en clôture de cette 31e journée. Les autres résultats, Lille bat Metz 2-1, Lorient battu par Toulouse 2-1 également, Clermont gagne contre Reims 4-1, Nice s'impose à Strasbourg 3-1 et Marseille remonte à la 7e place après sa victoire contre Lens 2-1.
RTL 5h32, briser l'omerta pour lutter contre le trafic de drogue. C'est l'idée lancée par le gouvernement.
En s'inspirant de l'Italie, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti a annoncé hier la création d'un statut de repenti plus protecteur, car la loi actuelle est pour l'instant très très peu appliquée. Alors qu'est-ce qui va changer, Cindy Hubert ?
Aujourd'hui, pour obtenir le statut de repenti, il faut apporter des informations cruciales sur la table. Les policiers du SIAT, un service très sensible, vont évaluer la crédibilité de la personne, le niveau de menace, et en échange, ils peuvent lui proposer une protection policière, une aide financière, une exfiltration, et parfois l'élaboration d'une légende avec un nom d'emprunt, tout cela sous le contrôle d'un juge. Mais ce dispositif reste très peu utilisé. Il y a aujourd'hui 18 repentis en France. La chancellerie voudrait donc rendre ces programmes plus attractifs en offrant à ceux qui brisent l'omerta la possibilité d'un changement d'état civil officiel et définitif, mais aussi des réductions de peine devant les tribunaux, ce qui est loin d'être systématique aujourd'hui.
Cindy Hubert du du service police-justice de RTL. Autre annonce, la création d'un parquet national dédié à la lutte contre la criminalité organisée. À Châteauroux, un mineur de 15 ans est toujours entendu ce matin après la mort d'un adolescent du même âge samedi, tué à coups de couteau. Ce suspect venait d'être mis en examen pour vol aggravé avec violence et placé sous contrôle judiciaire. Selon des témoignages, la mère de ce garçon peut être impliquée dans les faits. Elle est aussi en garde à vue.
Une affaire qui illustre la multiplication ces dernières semaines de cas de violence avec des auteurs et des victimes de plus en plus jeunes. Comme l'agression de Samara au début du mois, l'enquête administrative vient de se terminer.
Et elle doit tenter d'expliquer les conditions de l'agression de la jeune fille de 13 ans à Montpellier devant son collège. Et c'est une information RTL ce matin, une cagnotte est ouverte pour financer sa réinscription dans le privé. C'est ce qu'a expliqué à Patrick Hisson, maître Marc Galix, l'avocat de la mère de Samara. Il donne des nouvelles de la victime.
Samara ne va pas bien, je peux vous le dire, elle ne va pas bien. Elle n'arrive toujours pas à s'exprimer. Elle est suivie par un médecin pédopsychiatre et elle n'est pas capable de retourner, d'être à nouveau scolarisée. Donc sa mère, dans un premier temps, va essayer de trouver un nouvel établissement, mais c'est à mon avis prématuré.
Et à cet égard, elle a lancé une cagnotte pour pouvoir être scolarisée dans un établissement privé.
Tout à fait. Sa mère m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait lancé cette cagnotte parce que elle avait l'intention de scolariser sa fille dans un établissement privé où elle considère qu'elle sera beaucoup plus en sécurité.
Et au total, 5 mineurs sont mis en examen dans ce dossier pour tentative d'homicide. L'espoir d'une trêve à Gaza va-t-il se concrétiser aujourd'hui? Une délégation du Hamas va répondre en Égypte aux propositions sur un cessez-le-feu avec Israël. Selon un responsable du mouvement qui contrôle Gaza, il n'y a pas de problème majeur dans le texte. Pour autant, des frappes israéliennes ont touché Rafah cette nuit et fait une dizaine de morts.
C'est une information RTL ce matin. Un carburant 100% renouvelable pourrait bien faire son arrivée à la pompe.
Le super éthanol E85, il serait basé sur l'E85. Vous savez, ce carburant qui coûte 90 centimes le litre et qui se compose de 85% d'éthanol et de 15% de pétrole. Et bien là, ces 15% seraient remplacés par du carburant renouvelable. Cela permettrait de réduire de 70% les émissions de CO2. La Commission européenne doit désormais valider ce nouveau carburant.
Le déficit public au menu de l'Assemblée cet après-midi.
Un débat organisé deux jours après les décisions de deux agences de ne pas revoir la note de la dette française et après l'annonce du gros dérapage du déficit l'an dernier, l'occasion pour les oppositions de fustiger la politique budgétaire du gouvernement, William Galibert.
Oui, il n'y aura pas de vote cet après-midi à l'Assemblée, mais toutes les oppositions auront la parole les unes après les autres et elles vont dire tout le mal qu'elles pensent de la gestion économique du gouvernement Macron. Explosion des déficits, recettes et croissance en baisse, chômage qui remonte après avoir chuté. Et ça, à un mois et demi des européennes, c'est une musique que l'exécutif va avoir bien du mal à faire taire. Pas de vote donc aujourd'hui, pas de vote non plus sur un éventuel budget rectificatif. Pour expliquer où le gouvernement veut faire des économies, Emmanuel Macron ne veut pas en repasser par là. Les députés et les sénateurs crient au scandale et certains à droite chez LR menacent même de faire tomber Gabriel Attal prochainement en déposant une motion de censure pour dire « Stop, vous méprisez beaucoup trop le Parlement ». Voilà un peu la taille des nuages noirs qui planent en ce moment au-dessus du gouvernement.
William Galibert du service politique de RTL. Un débat à un mois et demi des européennes, vous l'entendiez. Et les Français commencent à s'intéresser au scrutin. Leur intérêt progresse de 5 points en un mois, 64% selon notre baromètre hebdomadaire. BVA X-Side pour RTL. Le Rassemblement National toujours en tête des intentions de vote, 31%. Devant la liste Renaissance et ses 17% et Place Publique avec 13%.
Le football, on parlait des garçons au début de ce journal. Et bien chez les filles, Lyon dispute sa 11e finale de Ligue des Champions.
Déjà vainqueur à l'aller, l'OL, club le plus titré de l'histoire de la compétition avec 8 trophées, a sorti les Parisiennes hier en demi-finale retour de 2-1. Les Lyonnaises retrouveront Barcelone tenant du titre en finale le 25 mai. Le rugby, La Rochelle vainqueur de Toulon 27-17 en clôture de la 22e journée du top 14, toujours emmené par le Stade Français. Et puis, c'est une information RTL, il y aura deux Français dans le jury du Festival de Cannes. Omar Sy et Eva Green seront de la partie aux côtés de la présidente Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie. Première montée des marches, le 14 mai, ce sera à vivre sur RTL.
Oui, évidemment, merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 7h.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
RTL autour du monde.
RTL Autour du Monde, nouveau format à partir d'aujourd'hui, un reportage comme vous en avez l'habitude et puis un coup d'œil dans la presse, de quoi parlent nos voisins, petit tour en Espagne et aux États-Unis aussi dans un instant. Mais tout d'abord, direction Londres où la loi votée la semaine dernière prévoyant d'envoyer au Rwanda tous les immigrés légaux suscite des tensions avec l'Irlande. Beaucoup de demandeurs d'asile pour voient en Dublin une sorte de nouvel Eldorado. À Londres, pour RTL, Marie Billon.
Avec la loi Rwanda, Londres ne veut pas expulser des milliers et des milliers de personnes vers Kigali. Le but est de dissuader les demandeurs d'asile de venir sur le sol britannique. De venir ou bien de rester. Selon le journal The Guardian, 80% des demandeurs d'asile qui arrivent en Irlande viennent du Royaume-Uni. Sur Sky News, Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, s'est félicité.
Moi, je me concentre sur le Royaume-Uni et la loi a déjà un impact. Elle inquiète les gens concernés. Or, si ceux qui entrent illégalement dans notre pays savent qu'ils ne pourront pas rester, ils sont moins susceptibles de venir.
Mais pour Dublin, cet afflux d'immigrés illégaux est un vrai problème car depuis quelques mois, c'est très nouveau, l'extrême droite anti-immigration gagne du terrain et des émeutes ont eu lieu en Irlande. La ministre de la Justice, Helen McEntee, a parlé à la RTE, l'audiovisuel public irlandais.
Je présenterai cette semaine une législation d'urgence pour garantir une politique de retour efficace pour que ces personnes rentrent au Royaume-Uni.
Le but de Dublin est de s'accorder avec Londres pour que les demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni et puis arrivés encore illégalement jusqu'en Irlande soient renvoyés au Royaume-Uni et puis potentiellement donc ensuite envoyé au Rwanda.
Marie Billon à Londres pour RTL. Et comme promis, coup d'œil dans la presse chez nos voisins. Qu'est-ce qui fait débat? Qu'est-ce qui fait parler? Bien en Espagne, un nom est sur toutes les lèvres. C'est celui de Pedro Sanchez, le premier ministre socialiste. Vous le savez, il doit dire aujourd'hui s'il démissionne ou pas. Il menace de quitter son poste depuis l'ouverture d'une enquête sur sa femme. Enquête pour trafic d'influence et corruption à la suite de la plainte d'une association proche de l'extrême droite. La pression est énorme sur la justice, note le journal El Mundo. Le juge qui est chargé de l'enquête est victime d'une campagne de harcèlement. Il reçoit des menaces et des messages d'intimidation. On l'a par exemple traité de vermine qui se nourrit du sang des gens. Le journal note aussi que l'émoi provoqué par la démission plus que probable de Sanchez a produit des scènes d'adhésion sans précédent au sein du Parti Socialiste. Sanchez fait monter la pression. C'est un peu « retenez-moi ou que je fais un malheur », ironise dans son édito le directeur du journal. Sanchez, le roi du drame. Et puis, il n'y a pas qu'en France que les manifestations pro-palestiniennes dans les universités font jaser. C'est le sujet qui fait la une en ce moment aux États-Unis. Des manifestants anti-guerre sur les campus se retranchent de New York à la Californie alors que les universités et la police passent à l'action. C'est ce qu'écrit le Boston Globe. Le Washington Post donne la parole à 6 étudiants confrontés à cette guerre sur leur campus. Certains manifestent pour la première fois, très engagés. D'autres cherchent encore à se faire un avis sur la situation à Gaza. Une certitude, les vertes universités américaines sont devenues des lieux de bataille idéologique. Le tout sous la surveillance étroite de la police. C'est aussi un sujet en Australie où un campement pro-palestinien s'est installé au cœur d'une fac à Sydney. Pas du goût du journal The Australian qui note les gamins étudiants scandant intifada et d'autres slogans anti-juifs montrent que l'université a perdu son sens moral, écrit le quotidien. Ce sera d'ailleurs un peu ce que nous dira dans une heure Alba Ventura dans la tablée du petit matin. Sciences Po a perdu le cap selon Alba. Il est 5h41.
RTL Matin. Jérôme Florin jusqu'à 7h.
Tout savoir sur la recherche et le développement avec Michelin. Sandrine Porcheret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice marketing et communication de Wizamo. De quoi s'agit-il exactement?
Eh bien, il s'agit d'une innovation du groupe Michelin. Wizamo, c'est une solution pour propulser les navires en utilisant l'énergie du vent, grâce à un système automatisé d'ailes gonflables et rétractables.
Ça, c'est étonnant, effectivement. Et pourquoi avoir développé cette aile?
Parce que notre ambition, c'est de contribuer à décarboner le transport maritime. Avec les performances de l'aile Wizamo, on peut réduire les émissions de CO2 de n'importe quel bateau, et plus particulièrement des gros navires de fret mondial.
Ah oui, donc c'est une vraie avancée pour l'environnement.
Oui, et c'est une innovation au service de la mobilité, ce qui a toujours été dans l'ADN de Michelin.
Merci beaucoup Sandrine.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Tout à l'heure, dans l'heure du crime, l'affaire Joséphine Bernard, le curieux suicide d'une jeune femme de 27 ans, pleine de vie, qui travaillait à Disneyland Paris. Enquête bâclée. Pour certains, la victime était indésirable. Le suicide cache-t-il un meurtre? L'affaire Joséphine Bernard, l'heure du crime, tout à l'heure, 14h30 sur RTL.
Et voilà votre nouveau pare-brise.
Pfiou!
c'est tout propre ça. Va falloir éviter les moustiques, hein.
Mais pour ça, vous avez les essuie-glaces tout neufs.
Bah parfait. Bon, je vais peut-être nettoyer mes lunettes, moi.
Jusqu'au 31 mai, Motrio vous fait profiter des balais d'essuie-glaces offerts pour toute réparation ou changement de pare-brise. Offre réservée aux particuliers, voire conditions dans les garages participants. Prenez rendez-vous sur motrio.fr.
RTL Matin, Jérôme Florin.
À suivre dans le journal de 6h, cette première pour une association qui veut libérer la parole des enfants harcelés ou abusés. L'association Les Papillons installe des boîtes aux lettres dans les écoles pour recueillir des témoignages. Et pour la première fois, un procès va se tenir après une enquête déclenchée par un mot glissé dans une de ces boîtes. C'est une enfant de 10 ans, Lily. Elle a dénoncé un inceste, sa mère, Émilie.
Lily avait donc écrit « Il met sa partie du bas dans ma partie du bas, j'essaye de m'enlever mais j'y arrive pas ». Je peux vous dire qu'en tant que maman, vous ne voilà, vous savez pas trop ce qui vous arrive.
Témoignage et reportage à retrouver dans le journal de 6h.
RTL Matin.
Comme chaque jour, vous commentez l'actualité au 32-10 et c'est notre question du jour. La flamme olympique en route vers la France, est-ce que les Jeux vous donnent le moral? Je redonne le score, vous dites non, c'est très clair, à 82%. Tout petit oui à 10%.
On était tout à l'heure avec Franck qui était pour et on est maintenant avec Olivier de Calais qui est transporteur et qui lui aussi se réjouit de l'arrivée des JO. Bonjour Olivier.
Bonjour Olivier.
Bonjour à tous.
Vous êtes donc dans les 10% alors, c'est bien.
Oui, je me réjouis parce que bon, faut pas voir les choses vraiment négatives. Hein, je pense que s'ils sont réussis, ce que je souhaite bien sûr de tout cœur, ça ne peut donner qu'une image positive de la France au jeu de milliards de personnes qui vont regarder ça via les médias, la TV, la télévision, etc., etc. Ça ne peut être que positif. Bon, ceci dit, je reste perplexe à moins de 100 jours sur les transports en commun.
Alors Valérie Pécresse ce matin dans Le Parisien dit pour les transports c'est réglé, hein, ça roule.
Ah bon, elle l'a dit donc. Oui. Je l'ai pas entendu.
Elle a dit l'Île-de-France n'a jamais été aussi prête.
Bon, alors tant mieux, ça c'est une bonne chose. Ensuite, bon, sur les jeux aquatiques dans la Seine, alors ça j'ai un gros doute, toujours, à moins de 100 jours.
Mais la question c'est vraiment sur ces jeux, est-ce que ça va vous donner le sourire? Est-ce que la France va être fière de ces jeux? Est-ce que ça va nous donner la banane, quoi? C'est ça la question.
Oui, alors sur cette question, oui, je dérive un petit peu. Oui, moi je pense que oui. Je pense que oui, s'ils sont bien réussis, oui, ça peut nous donner la banane, oui. Ça ne peut être que bien, oui. Voilà.
Eh bien, merci Olivier, vous votez toute la journée sur RTL.fr et l'appli RTL, évidemment, toute la journée. Merci Olivier, à bientôt.
Bonne journée Olivier.
Je vous en prie. Merci, au revoir. Au revoir.
Dans un court instant, votre première tablée du petit matin avec Christine Haas, Aline Perraudin et Olivier Dauvert. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Aline, pourquoi monter les escaliers permet de vivre plus longtemps?
Mais c'est pas une blague, hein. C'est une étude scientifique qui vient d'être présentée ce week-end à un congrès de cardiologie. Et il faut vraiment oublier l'ascenseur.
Olivier, les pourquoi de la conso ce matin?
Un sujet d'actu parce que c'est un légume de saison. Pourquoi les asperges sont si chères?
Et puis Christine nous donnera le signe de la semaine.
Non, c'est Vénus qui entre en taureau.
Ah bah oui, n'oublions pas évidemment. Tout de suite, 5h46.
Merci d'écouter RTL.
RTL, vivre ensemble.
Tout savoir sur les taches brunes avec les laboratoires Vichy.
Bonjour Fanny.
Bonjour.
Vous êtes pharmacienne conseil pour les laboratoires Vichy. Alors à quoi sont dues les taches qui apparaissent sur le visage?
Eh bien c'est dû à la mélanogénèse, un processus naturel qui s'accélère avec l'âge et le soleil.
Et on peut corriger ces taches?
Oui, et même les prévenir avec le protocole Lift Active B3 des laboratoires Vichy.
Comment?
D'abord on applique le sérum Lift Active B3, ensuite la crème B3 jours SPF 50 pour protéger la peau des UV.
D'accord. Quels sont les effets?
Eh bien après 2 mois d'utilisation, les taches diminuent de 65% en moyenne.
Super.
Et en plus, les laboratoires Vichy innovent avec la crème nuit Lift Active B3 anti-tache qui est enrichie en niacinamide et rétinol pur.
Mm-hmm.
Résultat, au réveil, l'hyperpigmentation est corrigée et la peau est visiblement plus éclatante.
Parfait. Et où trouve-t-on Lift Active B3 anti-tache?
En pharmacie, parapharmacie et sur vichy.fr.
Merci Fanny.
Étude clinique, mesure de la surface des taches brunes, 35 femmes, 2 mois.
Retrouvez toutes vos émissions en podcast sur rtl.fr ou sur l'application RTL.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie. RTL Matin avec Jérôme Florin.
La santé et la conso du lundi au jeudi avec Olivier Dauvert et Aline Pirodin. Olivier, vous allez nous parler d'un nouveau produit de luxe dans un instant.
Oui, en tous les cas un produit de saison, les asperges. Oui. C'est un légume de printemps par excellence et qui est cher, et je vais vous expliquer pourquoi il est si cher, parce que malheureusement c'est normal.
Et ce sera juste après Aline. Gros plan ce matin, Aline, sur une habitude qui permettrait de vivre plus longtemps.
Eh oui, avoir l'habitude de monter les escaliers serait bon pour la santé. Des chercheurs britanniques ont analysé plusieurs études, portant au total sur plus de 480 000 personnes.
Ah, donc c'est sérieux.
C'est sérieux. Ils ont présenté leurs résultats ce week-end au congrès scientifique de la Société européenne de cardiologie qui s'est tenu à Athènes. Les participants des études étaient en bonne santé ou pouvaient avoir des antécédents de maladies cardiovasculaires.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont observé?
Les chercheurs ont observé que les personnes qui ont l'habitude de monter les escaliers ont un risque réduit de 24% de décès par rapport à celles qui ne le font pas. Elles ont également moins de risque de développer une maladie cardiaque ou d'avoir un accident vasculaire cérébral.
Et comment on l'explique ?
Alors, monter les escaliers, ça correspond à un exercice bref, mais suffisamment intense pour stimuler le système cardiovasculaire. Ça renforce le cœur et le rend plus efficace. Ça améliore également le métabolisme. Ça aide à réguler le taux de cholestérol et la glycémie. Et comme l'ont précisé les chercheurs, la montée d'escalier a l'avantage d'être un exercice qu'on peut facilement intégrer dans sa vie quotidienne. Monter les escaliers, c'est un moyen simple de faire du cardio. Il s'agit d'un bon exercice car il fait travailler à la fois le cœur, les poumons, et il sollicite plusieurs groupes musculaires, les muscles des mollets, des cuisses et les fessiers. En plus, ça favorise la coordination et l'équilibre.
Mais alors, il faut monter combien de marches pour constater bénéfice?
Ça m'intéresse. Monter deux marches, tous le faire.
Alors, vous imaginez qu'il y a des chercheurs qui essaient de calculer ça. Alors, ce qu'ils disent pour l'instant, c'est que chaque mouvement compte, donc tout vaut mieux que prendre l'ascenseur. Alors, selon des recherches précédentes, il faudrait viser au moins 5 à 6 étages par jour.
Par jour, oui.
Bon, cette étude suggère que plus on monte d'escaliers, plus les bénéfices sont importants, on peut s'en douter. On a donc intérêt à répéter cet exercice plusieurs fois dans la journée. Si vous n'avez pas l'habitude de prendre l'escalier, commencez par un ou deux étages, puis augmentez progressivement le nombre de marches et essayez aussi d'aller à un rythme un peu plus soutenu.
Donc, ça veut dire qu'il faut oublier l'ascenseur?
Alors, absolument, sauf bien sûr si vous avez un problème de santé qui empêche de prendre les escaliers.
De toute façon, ils sont toujours en panne, alors.
Même de courtes montées sont bénéfiques pour la santé. Alors que ce soit chez vous, au travail ou dans les lieux publics, chaque fois que c'est possible, on prend l'escalier.
Merci beaucoup, Aline. La conso avec vous, Olivier Dauvert. Mais non, parce que santé, conso, c'est parfois lié. Question ce matin. Tiens, pourquoi les asperges sont si chères en ce moment?
Pourquoi? Ceux qui ont fait leur course le week-end dernier, c'est-à-dire normalement à peu près tout le monde, vous avez peut-être vu des promotions sur les asperges, ce qui est assez normal parce qu'on est au cœur de la saison qui va schématiquement d'avril à juin. C'est ce qu'on appelle un légume de printemps. Mais vous avez peut-être été retourné par le prix parce que même en promo, l'asperge reste un légume cher. Le week-end dernier, on en trouvait par exemple entre 4 et 5 euros la botte de 500 grammes. Alors un prix qui est à la fois intéressant pour de l'asperge, mais qui en tant que tel assez cher. Ça fait quand même 8 à 10 euros du kilo pour un légume, c'est pareil.
Alors d'où la question, pourquoi ce prix?
Alors deux raisons principales. D'abord, l'asperge est une production mineure en France. En moyenne, c'est 25 000 tonnes par an, dont d'ailleurs pour votre culture géographique, 10% pour le seul département de la Gironde, avec notamment l'asperge du Blayais. Alors oui, 25 000 tonnes à notre échelle de consommateur, ça peut vous paraître beaucoup, mais on va comparer avec des légumes stars, par exemple la tomate ou la carotte. Est-ce que vous avez une idée du tonnage produit en France pour ces légumes, pour voir de carottes et de tomates?
Une idée, non. Et c'est énorme, mais...
Beaucoup. 400 000 tonnes, c'est juste pour vous permettre de comparer par rapport aux 25 000 tonnes d'asperges. D'accord. Donc, on est sur une petite production quand on parle de l'asperge. C'est 20 fois moins que les stars du rayon. En clair, il n'y a pas ou peu d'économie d'échelle possible. C'est la première raison au prix de l'asperge.
Mais ce n'est pas la seule raison.
Non, il y a aussi le mode de production. Il n'y a pas beaucoup de production qui soit plus manuelle que les asperges. La récolte, par exemple, à la main, asperge par asperge, avec un couteau qui rentre dans la terre sur 15 cm de profondeur.
Alors là, il va falloir inventer la machine à ramasser les asperges.
Ça serait tellement simple. Mais non, c'est plus compliqué que ça, Jérôme, malheureusement. Si c'est manuel, c'est parce qu'il y a un brin de technique derrière. pas question de couper la tige en coupant l'asperge. Donc le geste humain est encore le plus précis. Alors au final, quand vous achetez une botte d'asperge de 500 grammes à 5 euros, dites-vous que la moitié du prix, c'est de la main-d'œuvre. Honnêtement, il y a peu de fruits ou de légumes où ça pèse autant dans le prix. Alors vous avez les fraises aussi, par exemple, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont elles aussi aussi chères. Alors sauf quand vous achetez des produits importés, notamment d'Espagne, parce que là, les salaires sont moins chers. Et c'est pour ça que samedi, dans l'hypermarché Carrefour, où j'accompagnais Mamie Dover faire ses courses, et tout ça est vrai, les asperges espagnoles étaient à 3 euros la botte de 500 grammes seulement. Ça faisait quand même 25 à 30% moins cher.
Bon, et est-ce que le pourquoi de l'odeur du pipi quand on mange des asperges,
Caroline.
Oui, Caroline, parce que je suis incollable sur les asperges. Et c'est bien connu, l'asperge vous poursuit jusqu'aux toilettes. Ce parfum délicat est dû à un acide présent dans l'asperge, l'acide asparagusique. Quand il est digéré, il se décompose en plusieurs substances riches en soufre. Et c'est ça qui va dégager cette odeur forte quand vous urinez. Et pour terminer avec les élégances du matin, c'est à peu près les mêmes composés que dans l'urine du putois. Alors je sais, c'est pas vendeur pour l'asperge d'être comparé au putois, mais c'est la vérité. Sur ce, bon appétit.
Bon petit déjeuner à tous, c'était un régal. Merci beaucoup Olivier, merci Aline. Vous revenez tous les deux demain, évidemment. Demain. Et Olivier,
9h avec Julien Courbet.
Vous dormez ici. Hein.
Quasiment.
Christina, je me tourne vers vous pour l'horoscope de la semaine. On commence par les taureaux.
Eh bien, c'est l'événement de la semaine. Pas formidable pour certains, hein. Alors que pour d'autres, ce sera très... Pardon.
Ah, c'est pas les taureaux, c'est le chat dans la gorge.
Oui, hein. Oui, ça commence mal. Hein. Très gourmand, vos appétits de toute nature seront exaltés. Je parlais évidemment aux taureaux, puisque Vénus rentre dans leur signe. Gémeaux, donc Vénus en taureau occupe votre secteur 12, qui est attribué aux rêves, aux fantasmes et pour certains à une attente amoureuse. Cela peut vous prendre la tête. Cancer, bien placé dans votre secteur 11, qui gère vos amitiés et vos projets, Vénus facilite vos contacts et votre vie sociale. De nouvelles connaissances sont à prévoir.
Les lions.
La planète du cœur, qui gère aussi les accords, occupe maintenant votre secteur professionnel, celui de vos réussites, et il se peut qu'un contrat soit en négociation.
Oh.
Vierge, l'entrée de Vénus en taureau est une excellente nouvelle, car vous exprimerez davantage vos sentiments et la période sera épanouissante pour vos amours. Balance, le taureau où Vénus se sera jusqu'au 23 juin, est un secteur financier pour votre signe. On peut imaginer que vous serez content parce que l'argent rentrera,
les balances. Les scorpions.
Face à votre signe, Vénus influence à présent le secteur qui symbolise le couple. Les associations, les accords, les désaccords, les rencontres lui sont aussi attribuées. Sagittaire, quand Vénus occupe son signe, donc le taureau, il arrive que vous soyez sous le charme d'une personne avec laquelle vous travaillez ou que vous soyez content de votre travail. Capricorne, la conjoncture est excellente pour vous. Quel que soit votre décan, vous serez plus démonstratif de vos sentiments. Entendre, alors que d'habitude vous êtes discret.
Verseau.
Alors, l'amour que vous avez pour votre famille s'exprime mieux quand Vénus est en taureau, mais il arrive aussi qu'il y ait une réconciliation avec un ou une de vos ex. Poisson, Vénus est agréable lorsqu'elle séjourne dans votre secteur 3, qui représente les relations avec l'entourage. Vous aurez plus de complicité avec l'un de vos proches. Bélier, Vénus en taureau représente la manière dont vous vous attachez à ceux que vous aimez et les besoins qu'ils sont censés combler, mais évidemment de leur demander la lune.
Merci beaucoup Christine Haas, on vous retrouve évidemment au 3210.
Oui, et sur celastro.com.
RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
Et vous retrouvez Philippe Cavrivière tous les jours juste avant 8h. Vendredi, il était face à la ministre de la Culture, Rachida Dati.
Rachida, vous étiez la prise de guerre de Macron au Mercato. Étrangement, Emmanuel ne s'est pas jeté sur Olivier Marleix.
Non.
Ni Nadine Morano.
Non plus.
Oui. Voilà. Oh, comme c'est bizarre.
Bah, oui, je sais pas, c'est bizarre. Oh, oui, bah, il y a peut-être perdu le 06 de Nadine, on ne sait pas. Bon, en même temps, c'est vrai que vous étiez unis par les liens sacrés du parti. Puis Éric Ciotti, ben, voilà, c'est comme Vincent Cassel, Brad Pitt, François Civil. C'est des gars, ils n'ont pas l'habitude qu'on les quitte. Ils n'ont pas l'habitude qu'une femme se barre comme ça. Bon, il faut se mettre à la place d'Éric. Il voit sa préférée déménager dans un hôtel particulier de la rue de Valois.
Oui.
Où on n'a toujours pas été invité. Bon, Éric, il n'allait pas dire « Bon, Rachida, tu t'en vas ?» Je vais t'aider à porter tes valises. Il y en a combien ? 134. Ah oui. Et 200 mâles. Ah oui, c'est quand même, il y en a un paquet. Voilà. Et puis l'analogie fonctionne moyennement parce qu'Éric Ciotti ne peut pas porter des très grosses valises. Non, mais une petite trousse de toilette, un vanity case à la rigueur pour rendre service. Alors, j'évoquais.
On n'en doute pas.
J'évoquais précédemment votre timidité maladive dans les rapports humains. Il y a eu cette affaire de texto à poil soupolé envoyé à Bruno Le Maire. Oui. Vous avez démenti. Oui, c'est faux en plus.
Oui,
bon, on le sait. Vous auriez envoyé tête qu'une mère. C'est faux, vous l'avez dit. Alors, même que pour un amateur de renflement brun, c'est pas si péjoratif. C'est même presque un hommage à son œuvre littéraire.
Bien sûr.
Philippe Cavrivière, que vous retrouverez en direct tout à l'heure, juste avant 8h. Il y aura encore de la pluie au programme aujourd'hui, surtout pour le sud.
Oui, et j'ai eu Monsieur Météo France, même le week-end sera compliqué.
Oh non.
Désolé.
Bon réveil sur RTL.
Avec Jérôme Florin.
Tout savoir sur les élections européennes avec le gouvernement. Thomas, bonjour. Vous avez interrogé un spécialiste de l'Union européenne. Alors pourquoi on vote exactement en juin prochain ?
Eh bien pour élire les 81 représentants français qui vont siéger pendant les 5 prochaines années au Parlement européen. C'est une élection à un tour et chaque liste qui obtient plus de 5% des suffrages se voit attribuer un nombre de sièges proportionnel à son score.
Et pourquoi c'est une élection importante ?
Parce que les députés européens travaillent à améliorer notre quotidien à travers des projets cofinancés ou en votant des lois comme celle sur la réduction des produits issus de filières qui contribuent à la déforestation.
Très bien. Et on vote quand alors ?
Le 9 juin, ainsi que le 8 juin dans certains bureaux de vote des Outre-mer ou des consulats de la zone atlantique. Pour plus d'infos, rendez-vous sur elections.intérieur.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement. Tous les soirs dans RTL Bonsoir, retrouvez Marc-Antoine Lebray dans Lebray
King News. Au Brésil, une femme a été arrêtée après avoir emmené en fauteuil roulant son oncle mort à la banque pour tenter de retirer de l'argent en son nom.
Salut les trucs. C'est quoi ce plagiat?
Mais pourquoi vous dites ça, Jean-Marc? Je rappelle, vous êtes la peluche de Jeff Panacloc.
Soutirer de l'argent en animant un truc tout mou.